A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir Geoffroy.
Très heureux de vous réunir tous les deux pour évoquer notamment dans quelques instants la loi immigration qui semble avoir du plomb dans l'aile avant d'arriver à l'Assemblée nationale lundi et ce sondage IFOP pour El Mania TV dans lequel la majorité des musulmans de France estiment que la laïcité est discriminatoire. On va d'ailleurs commencer l'émission avec ça. À l'occasion de la journée nationale de la laïcité demain, cette étude atteste que 78% des Français de confession musulmane considèrent la laïcité telle qu'elle est appliquée par les pouvoirs publics comme discriminatoire, voire islamophobe. 34% jugent que la laïcité est assez discriminatoire et 44% très discriminatoire. On a, Geoffroy Lejeune, une vraie tendance maintenant de ce que pensent les musulmans de France et cela peut-être expliquer le silence de certains d'entre eux dans certaines circonstances.
C'est un sondage extrêmement important en réalité. On va en parler pendant des années. Comme on parle de l'étude IFOP, déjà c'était le même institut pour la Fondation Jean Jaurès de 2016. On en parle encore en disant qu'une majorité de jeunes musulmans mettent la charia au-dessus des lois de la République. Ce sondage-là va rester de la même manière, peut-être même qu'il est plus impressionnant encore. Je vous épargne les détails de quand on rentre dans ce qu'on appelle.
On va rentrer dans les détails dans un instant, mais là, juste avoir votre vision globale sur ce chiffre de 78%,
très bien,
qui est conséquent en effet.
Eh bien, très simplement, on entend à longueur de journée dans le débat public des gens, quand on a des débats sur l'islam en France, nous expliquer que, contrairement à ce que vous dites, vous, les semeurs de haine, vous, l'extrême droite, vous, etc., etc., l'immense majorité de nos concitoyens musulmans vit l'islam dans des circonstances parfaitement adaptées à la France, parfaitement adaptées à nos règles, parfaitement adaptées à nos institutions et à notre cadre commun. Ce sondage dit que non. Voilà.
Ce résultat, Philippe Guibert, ce chiffre aussi de 78% et ce sondage que l'on va détailler dans quelques instants, est-ce que c'est aussi peut-être la résultante d'une ostracisation de la religion musulmane en France qui ne serait pas respectée par une certaine caste ou par les médias?
Les entrepreneurs les plus rigoristes ou les plus intégristes de cette religion, voire d'autres religions, mais en particulier de cette religion. Non, justement. Enfin, la France est le pays européen qui a construit le plus de mosquées depuis 25 ans, et donc le faire passer pour cette république laïque pour un pays qui empêcherait les musulmans de pratiquer leur religion serait un comble. Je rejoins Geoffroy sur le constat sur ce sondage. C'est un sondage que j'allais qualifier de catastrophique parce que c'est un double échec. C'est un échec qui est très embêtant. Un échec d'une bonne partie des musulmans à comprendre le pays dans lequel ils vivent et à en partager les grands principes, à commencer par la laïcité évidemment, mais pas seulement, parce qu'on pourrait parler du rapport entre religion et science pour beaucoup de ces sondés. C'est un des chiffres qui m'a le plus choqué. 80% des musulmans pensent que quand la science et religion sont en conflit, et la science c'est ce qu'on apprend à l'école notamment, c'est la religion qui a raison et c'est la science qui a tort. C'est un résultat extrêmement... je trouve extrêmement parlant. Et donc, c'est un échec pour une bonne partie de la population musulmane qui n'adhère pas aux principes tels que la France les a construits à travers une république laïque de ce qu'on appelle vivre ensemble. Mais c'est un échec aussi pour la France qui n'a pas réussi à transmettre. Donc, je ne cherche pas à savoir à qui revient la responsabilité la plus grande.
Les deux.
Je constate simplement que les musulmans français, les Français musulmans, sont touchés par ce qu'on constate dans d'autres, dans des pays du Maghreb notamment, que je connais un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle réislamisation de l'islam, une telle emprise des mouvements islamistes sur l'islam tel qu'il est pratiqué dans des pays, par exemple, du Maghreb, que forcément, à un moment donné, ça a touché les Français musulmans qui sont souvent d'origine, pas toujours, mais souvent d'origine de ces pays.
Par réplique, en effet, dans ce sondage, il y a des chiffres très inquiétants également, qui viennent corroborer aussi le chiffre global général de 78% de musulmans qui estiment donc que la laïcité est discriminatoire, en tout cas islamophobe. 16% des Français de confession musulmane n'expriment pas de condamnation totale à l'endroit du terroriste d'Arras, auteur du meurtre à l'Arbre Blanche, vous le savez, du professeur Dominique Bernard. Les détails avec Marie-Liesse Chevalier.
31% des élèves musulmans actuellement scolarisés ne condamnent pas totalement l'auteur de l'attentat d'Arras. C'est l'un des chiffres qui ressort du dernier sondage IFOP auprès des musulmans français sur la laïcité, la place de la religion à l'école et dans la société. En octobre 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, ils étaient 16%.
C'est quand même problématique puisque pour Paty, on pouvait lui reprocher d'avoir blasphémé en fait le prophète. Mais là, avec Dominique Bernard, il n'a strictement rien fait à part être simplement professeur. Donc c'est préoccupant de voir que globalement, on regarde ces indicateurs qui ne sont pas totalement comparables, mais qui donnent quand même une indication. On se rend compte que dans cette situation, le taux de non-condamnation, il est quand même plus faible que dans le passé.
Plus globalement, 78% des musulmans jugent que la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics est discriminatoire envers les musulmans.
Ils sont aussi, pour l'école, très largement favorables à l'abrogation de la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles comme le voile à l'école, et aussi la circulaire Attal qui interdit le port des abayas récemment.
Signe de la radicalisation des plus jeunes, 70% des moins de 25 ans souhaitent que les jeunes femmes puissent ne pas assister aux cours de natation pour des raisons religieuses.
Et notamment Geoffroy Lejeune, 16% donc des Français de confession musulmane qui n'expriment pas de condamnation totale à l'endroit du terroriste d'Arras. 5% ne le condamnent pas du tout. 11% condamnent tout en partageant certaines des motivations du terroriste islamiste. Ça dit beaucoup de choses néanmoins.
Ça dit énormément. En fait, à partir du moment où vous avez le constat qu'on a fait, on était d'accord avec Philippe sur le constat général, après vous avez des multiples manières de l'observer et la question de la condamnation de l'attentat est une des conséquences. Mais en réalité, le port de l'abaya, tout y passe. Vous constatez qu'il y a une fracture avec ce que devrait être le sens commun, disons, qui unit tous les Français, quelle que soit leur confession. Il y a une fracture, ça ne fonctionne pas avec une grande partie de la communauté musulmane. Et on peut noter, c'est ça, c'était bien souligné dans le sujet d'ailleurs, mais ce qui est super angoissant pour l'avenir, c'est qu'il y a le constat, les 16% dont vous parlez, sur le cas de Arras spécifiquement, et le chiffre est deux fois plus important chez les jeunes. C'est-à-dire que la tendance, elle est à une désassimilation. C'est que les générations qui arrivent vont être plus radicales encore que celles qu'on a aujourd'hui, qui sont adultes aujourd'hui. Donc ça vous dresse un tableau glaçant. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe. Le double échec, leur échec à eux de ne pas s'assimiler et notre échec à nous de ne pas les avoir assimilés. Moi, j'en veux presque plus à ceux qui n'ont pas essayé de les assimiler qu'à ceux qui n'ont pas réussi à s'assimiler. La vérité, c'est quand vous venez d'un pays étranger avec une culture étrangère ou différente et une religion qui est une orthopraxie qui guide toute votre vie en société, je peux comprendre que ce soit compliqué de se fondre dans un autre moule, surtout si on vous en donne pas envie, si on vous dit que vous n'avez pas à le faire, qu'il faut venir comme vous étiez et rester comme vous étiez, et que l'assimilation est un gros mot ridicule. Etc. Donc moi j'en veux beaucoup plus à nos élites en réalité qu'aux gens issus de l'immigration qui sont musulmans. Mais c'est un échec. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est par contre c'est une très très grande victoire pour les frères musulmans. Florence Berjou-Blackler n'est pas là pour le dire, mais elle l'explique beaucoup régulièrement. C'est l'islamophobie, le soupçon d'islamophobie est quelque chose qui a été inventé, théorisé par les frères musulmans depuis deux décennies pour justement empêcher l'assimilation et créer le ressentiment chez les musulmans qui vivraient dans des pays occidentaux. Et 78%, ça c'est une victoire. C'est une victoire au premier tour à plate couture.
Et cela donne effectivement cette tendance vraie ou pas, en tout cas peut-être spécieuse, Philippe Guibert, avec ces chiffres-là, que certains musulmans pourraient basculer vers l'islamisme. C'est l'idée que cela peut renvoyer. Je ne dis pas que c'est un postulat et que c'est factuel, mais en tout cas, ces chiffres renvoient vers cela. Et ça aussi, c'est inquiétant, et c'est en effet la victoire du frérisme.
Non, c'est pourrait basculer vers l'islamisme. En réalité, il y a une majorité qui a imprégné l'islamisme, d'une vision rigoriste de la pratique musulmane. C'est ça que dit ce sondage. Mais pire encore, il y a une minorité qui n'est pas loin de la radicalisation. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Ma réponse est plus inquiète que votre question. Effectivement, il y a ces 16% et il y a le chiffre que citait Geoffroy sur les générations scolarisées. Et ça correspond encore une fois à l'évolution de la religion musulmane dans le monde. C'est ça la réalité, Esther Collet. Les générations qui ont pratiqué l'islam dans les années 70, avant le grand tournant de l'islamisme, des islamismes à la fin des années 70, n'avaient pas du tout le même rapport à leur pratique religieuse et à la société dans leur ensemble. Or, à l'évidence, et là je te rejoins, hélas, c'est que le discours frère musulman, le discours aussi salafiste, il y a plusieurs formes d'islamisme, a pu, à l'évidence, gagner dans les nouvelles générations de façon importante. Alors, ça ne se traduit pas par une radicalisation de tous, mais ça se traduit par une attitude où, finalement, la République française, c'est quoi ? C'est de dire, vous faites ce que vous voulez dans le cadre de la loi, dans votre sphère intime, familiale, amicale, voire dans votre quartier. Mais dans la vie sociale, et a fortiori dans la vie publique et politique, on va mettre un peu la religion de côté. Et puis quand vous êtes au travail, quand vous êtes, ça c'est pas inscrit dans la loi, mais c'est dans les mœurs, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans une association sportive, bah vous laissez un peu vos pratiques religieuses de côté pour que tout le monde puisse être en commun. Parce que la France a fait le pari, à travers une république laïque, que la religion était pas, les religions n'étaient pas forcément le meilleur moyen de rassembler les gens et de les faire vivre ensemble, et que c'était plutôt un facteur de division. Et donc on a fait cette séparation qui porte le nom de laïcité. Après, il y a plein d'applications juridiques dont on pourrait parler. Mais la philosophie fondamentale, elle est là. Or, on voit bien que cette philosophie fondamentale, elle est refusée par une majorité de musulmans, dont une minorité est dans une démarche encore plus radicale.
Mais ce sondage démontre aussi, Geoffroy Lejeune, qu'il y a une forme de, pardon pour le néologisme, de halalisation des comportements. C'est nettement visible, notamment ancré chez les jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes, même s'ils sont encore à l'école pour la plupart, et que cela crée une espèce de fossé, voire de péril jeune, assez inquiétant tout de même.
Et puis cette jeunesse, elle va remplacer les moins jeunes d'aujourd'hui, donc et avec d'autres choses dans la tête. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant avec l'islam en France, c'est que plus les générations de descendants de l'immigration musulmane, disons maghrébine ou musulmane en règle générale, plus les générations se succèdent, plus elles se radicalisent. C'est l'inverse de ce qui devrait se passer. Le sens commun voudrait faire croire que plus vous restez dans un pays, plus finalement il y a des mariages mixtes, il y a une évolution, certains membres de la famille changent. Ce n'est pas le cas, il se passe exactement l'inverse. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'était prévisible, d'ailleurs ça a été prévu par certains. Pourquoi ? Parce que la laïcité, pour moi le vrai enseignement de ce sondage, c'est que la laïcité ne nous protège absolument pas de ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas le bon outil en réalité. Ça n'est pas le bon outil parce que c'est quelque chose qui a été conceptualisé, inventé, pour gérer la vie en communauté dans un pays où il y avait des catholiques, des athées et des juifs. Les juifs avaient été matémathiques.
Un peu de protestants aussi.
Un peu de protestants.
Ont beaucoup souffert dans notre pays.
Enfin, ils ont surtout souffert avant la laïcité, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et les juifs ont été matés par Napoléon. Les catholiques ont été matés par la Révolution, puis par par 1905. Les protestants avaient été matés pendant les guerres de religion. Eux, j'ai envie de dire, c'est pas, puis ils sont très nombreux. La laïcité a été inventée avant l'islam en réalité. Et qu'est-ce que c'est l'islam ? C'est beaucoup de choses, mais c'est surtout l'inverse de la laïcité. L'islam, c'est une organisation de la vie en société, c'est un code pénal, c'est un code civil, c'est un code vestimentaire, c'est un code, vous avez parlé de halalisation, c'est même un code de nourriture, c'est une culture, c'est une civilisation, et qui est respectable, et c'est pas le sujet n'est pas là. C'est une civilisation qui ne peut fonctionner que quand elle est hégémonique, sinon des minorités musulmanes, ça fonctionne pas.
C'est là où je suis pas tout à fait d'accord.
En tout cas, elles ne s'assimilent pas à la norme commune, alors que les juifs, c'était l'évidence même que ça avait marché, les protestants, les catholiques, etc. Donc, on ne sortira pas tant qu'on aura, en fait, tant qu'on aura la volonté de faire cohabiter avec cette laïcité qui est une espèce de terrain neutre au milieu.
Non, c'est pas un terrain neutre.
Ça ne marchera pas avec l'islam, parce qu'il est construit à l'inverse.
Philippe Guibert, pourquoi la laïcité d'ailleurs n'est pas un terrain neutre ? Pourquoi d'ailleurs 75% des musulmans de France aimeraient instaurer des jours fériés, des fêtes religieuses également musulmanes comme l'Aïd el-Kébir ? Non, mais ça contribuerait à une forme de laïcité. Mais il n'y a pas de neutralité là, pour le coup.
Non, mais la laïcité n'est pas simplement une neutralité. Elle est juridiquement une neutralité de l'État, et des pouvoirs publics et des élus, de ne pas mélanger la religion et de ne pas mélanger la religion et les pouvoirs publics, et de ne pas favoriser ou discriminer une religion par rapport à une autre. Ça, c'est le principe juridique de la laïcité. Et c'est pour ça aussi qu'hier soir, Emmanuel Macron a choqué ou gêné beaucoup de gens en accueillant une cérémonie religieuse à l'Élysée.
Hanouka,
en l'occurrence. Mais ça aurait été une autre cérémonie religieuse, on pouvait faire exactement le même commentaire. Donc ça, c'est la neutralité. Mais la laïcité, c'est un principe d'émancipation. C'est un principe qui... c'est toute la philosophie de la République française. Et ce qui est triste, c'est que cette philosophie est un peu en train de souffrir, pour ne pas dire autre chose. C'est qu'elle est fondée sur l'école, sur la raison. Elle est fondée sur cette séparation entre le privé et le public qui fait que la vie publique n'est pas régie par des règles religieuses. Alors, et donc c'est une philosophie d'émancipation et en même temps de concorde civile. Alors, l'islam, là-dedans, c'est vrai que l'islam n'a pas dans son ADN, si j'ose dire, la séparation du temporel et du spirituel. Ça, c'est incontestable. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que l'islam a évolué au cours du temps, et sans remonter à l'Empire ottoman ou à beaucoup plus loin. Dans les années 60 ou 70, la plupart des pays arabo-musulmans ont été dirigés par des laïcs et par des gens qui tenaient la religion bien à distance, notamment les frères musulmans. Il y a une célèbre vidéo de Nasser, président égyptien, se moquant du voile
et se moquant
des frères musulmans.
Il s'est fait assassiner.
Il a tenu longtemps et son régime a tenu longtemps. Il a tenu une bonne grosse vingtaine d'années. La réalité, c'est que dans ces pays, les régimes laïcs ont échoué. Ils ont échoué. Et ils ont échoué pour plein de raisons. Mais que, du coup, ce sont les frères musulmans ou d'autres mouvances islamistes qui ont pris le dessus et qui ont imprégné complètement la religion musulmane. Chiite en Iran, évidemment, avec le régime des Mollahs. Les frères musulmans dont vous parliez, les salafistes venus du wahhabisme de l'Arabie Saoudite. Et donc, depuis les années 80, depuis une trentaine, quarantaine d'années, c'est cette vision intégriste rigoriste qui est effectivement, si on la suit, n'est pas tout à fait compatible avec la République française, avec le mode de vie à la française, qui consiste à avoir cette séparation vie publique-vie privée, et dans la vie sociale et vie publique, une certaine retenue par rapport à la religion, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, on peut la pratiquer autant qu'on le souhaite, et dans les meilleures conditions qu'on le souhaite.
Juste un petit mot, Geoffroy Lejeune, j'en reviens à ces 16% notamment de musulmans de France qui ne condamnent pas l'attentat contre le professeur d'Arras. Est-ce que cela veut dire que les professeurs aujourd'hui sont encore plus en danger avec l'indication qui nous est donnée par cette étude?
Alors évidemment, je pense que ce seront les moins surpris d'ailleurs des résultats de cette enquête. Aujourd'hui, les témoignages de profs dans des quartiers compliqués, c'est qu'ils font quand même profil bas sur l'enseignement de la Shoah, profil bas sur l'enseignement de la théorie de l'évolution.
Sur la science.
Et ils sont confrontés en fait à ça. Et que l'instruction civique, elle n'est pas exactement pareille que dans les lycées des Hauts-de-Seine. Donc je pense qu'ils connaissent parfaitement cette réalité et qu'aucun d'entre eux sera surpris. Juste pour répondre sur ce que Philippe a dit, tu fais la démonstration en réalité dans ton propos que ce que tu dis ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu des régimes laïcs, mais ça a été des dictateurs. Et quand ça a cessé d'être des dictateurs, c'est devenu l'islamisme. L'Égypte est un très bon exemple récent. C'est qu'on a les frères musulmans au pouvoir, renversé par quelqu'un qui est, il a raison d'ailleurs, qui a un pouvoir autoritaire, parce que sinon, il se fait renverser par sa population. Et moi, je voudrais juste essayer d'apporter la démonstration que la laïcité n'est pas la réponse, n'est pas la solution en donnant
Parce que
je pense que j'ai la réponse. En tout cas, j'ai une autre réponse. C'est que tu dis la laïcité, c'est l'émancipation. Mais un croyant, tout croyant d'ailleurs, pas seulement les musulmans, mais un croyant musulman en l'espèce, il a une autre vision de l'émancipation que toi. Tu dis la laïcité, c'est la liberté. La femme musulmane qui se voile, très souvent, elle est très libre de se voiler. C'est un choix. Elle le fait par amour pour Dieu.
La pression sociale et familiale joue beaucoup.
Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que les univers mentaux entre les musulmans et les laïcs, les je sais pas comment on dit, j'allais dire les laïcars, c'est un peu excessif, les laïcars, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que en fait, toi, tu considères qu'une femme voilée n'est a priori pas libre. Les femmes voilées te disent si c'est ma liberté et j'en suis très heureuse.
Les deux sont incompatibles.
Tu parlais de la raison et la science notamment. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne professerait de sa foi qu'en la science est jugé fou par quelqu'un qui, lui, met sa foi dans la religion. Et donc, ce sont deux choses qui ne peuvent pas se comprendre en réalité. Et imposer ce carcan, la raison, l'émancipation, la liberté, avec tes critères, avec les critères de la laïcité, les croyants ne peuvent pas le comprendre. Mais moi, je vais même te dire, moi, je suis catholique, il y a beaucoup de choses qui me paraissent des hérésies dans tout ce que tu dis. Mais Donc pourquoi aujourd'hui...
Oui, mais la différence, c'est que toi, tu as accepté cette séparation public-privé.
Et pourquoi j'ai...
Et donc, pourquoi on va prendre un exemple, l'avortement choque les catholiques, mais personne ne les oblige à le pratiquer.
Pourquoi ?
Et c'est une loi de liberté qui permet à ceux qui veulent, à ceux ou celles surtout, qui veulent y avoir recours, d'y avoir recours. Mais là où c'est intéressant, la République laïque, c'est que ça permet d'avoir l'avortement. Sans la République laïque,
si elle a ça comme bilan, pardon, mais c'est pas glorieux.
Moi, si c'est glorieux, si tu demanderas aux femmes qui avortaient clandestinement auparavant, tu verras que c'est plus glorieux. Ouais.
Ouais, on pourrait avoir le débat sur l'avortement. Tu peux aussi.
Non, j'ai pris cet exemple-là parce que ça a été une émancipation des femmes.
C'est un très bon
important.
Exemple. C'est un très bon exemple parce qu'en effet, l'avortement choque les catholiques. Le pape est contre. Les catholiques sont contre. En tout cas, en théorie, ils sont contre. Et pourtant,
tous, hein.
C'est toléré. Pas tous, mais en théorie, ils sont contre. Le dogme est contre, en tout cas. Et pourtant, c'est toléré. Et pourtant, on vit dans un pays où l'avortement est pratiqué et les catholiques font pas des manifestations tous les jours. Pourquoi ça marche ?
Donc, ils ont accepté la distinction public-privé.
C'est pas la laïcité. C'est parce que c'est une question de culture, de civilisation.
En réalité, c'est une conséquence.
En réalité,
culture laïque et républicaine.
En réalité, la France d'avant la République et d'après la République, c'est encore la France. Il y a une continuité.
Il y a quelques changements.
Et il y a eu énormément de changements, et c'est normal.
Il n'y a pas d'identité française coulée dans le marbre depuis l'Ancien Régime.
Justement,
ça a beaucoup changé.
Justement, il y a beaucoup de
choses qui changent. Et dans le rapport à la religion, notamment.
Il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a le long lit de la rivière France qui continue son chemin et qui est, en fait, il y a une continuité, c'est la même chose. Et donc, c'est la France, en réalité, qui nous rassemble. C'est une culture, encore une fois, et une civilisation. Et la vérité, c'est que la laïcité, Elle est contenue dans le christianisme. C'est une civilisation judéo-chrétienne et la laïcité,
elle est contenue dans le christianisme. Il a fallu beaucoup se battre contre, non pas le christianisme,
évidemment,
mais contre l'Église en particulier.
Évidemment, bien sûr que oui. Mais quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », en fait, il invente la laïcité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est parfaitement toléré. C'est une religion qui est compatible avec la laïcité. Elle l'a inventée. Et le judaïsme fait de la même manière la part des choses.
Et selon vous, l'islam n'est pas compatible avec la laïcité ?
L'islam, c'est l'inverse de la laïcité.
L'islam, tel qu'il est devenu pratiqué, tel qu'il a évolué depuis les années 70 sous l'influence de ces islamistes, c'est beaucoup plus...
Non, mais c'est même pas une question d'islamisme, pour le coup, il faut rester sur...
Non, mais d'une vision, on dit l'islamisme, d'une vision rigoriste, intégriste,
c'est pas rigoriste,
fondamentaliste,
mais non, mais il faut respecter,
parfois fanatique.
Mais il faut respecter le Coran, moi je veux pas traiter de fanatique tous les musulmans. C'est au contraire contenu dans les textes, dans la philosophie, dans l'organisation de la vie qui est professée dans le Coran, c'est l'inverse de la laïcité.
Toutes les religions ont eu leur fanatique. Elles ont évolué historiquement.
Mais si je peux me permettre, ça n'est pas le sujet aujourd'hui.
Non, évidemment que c'est pas le sujet.
Les 78%
mais ce que je veux dire, c'est que toute religion peut avoir ses interprétations fanatiques. Le problème de notre époque est que c'est l'islam, principalement, qui, si j'ose dire, réunit les fanatiques ou le plus de fanatiques. Et donc la question est de savoir si l'islam peut évoluer vers des conceptions hautes. C'était l'espoir de beaucoup de gens, dont moi, qu'il puisse avoir un islam de France. À la lecture de son sondage, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas tout à fait gagné.
Mais en fait, c'est
après, il faudrait juste pour te répondre. Moi, je considère que les dernières générations, les derniers pouvoirs publics, ont abandonné l'esprit de la République laïque. Bon, l'histoire d'hier soir d'Emmanuel Macron en est une caricature. C'est une telle désinvolture par maladresse, sans doute, parce que ça partait d'un bon sentiment pour envoyer un message de sympathie et de soutien à la communauté juive.
Et lui, il ne l'a pas considéré comme une cérémonie religieuse. Il a eu l'occasion s'exprimer aujourd'hui.
C'était une cérémonie religieuse, mais ça partait d'un bon sentiment. Et donc, ça prouve que dans les dernières générations, la laïcité n'a pas été portée. Souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, qui lui-même critiquait la laïcité et parlait de laïcité positive. Quand on ajoute un adjectif à laïcité, c'est mal barré. Et ça veut dire qu'on commence à perdre l'esprit laïque. Et donc, je crois que depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, cet esprit laïque, cet esprit républicain, il a été beaucoup utilisé dans les mots, mais très peu dans les pratiques et dans les politiques qui ont été conduites et dans les comportements de ceux qui nous ont gouvernés.
Juste quelques mots, il nous reste quelques minutes et j'aimerais qu'on puisse commenter aussi cette information puisque c'est en lien, en tout cas cela fait écho aux chiffres que nous donnions sur notamment les 16% de musulmans français qui ne condamnent pas la mort et donc l'acte terroriste contre le professeur Darras. Aujourd'hui, le tribunal pour enfants de Paris a rendu sa décision dans le procès de 6 anciens collégiens jugés pour leur implication dans l'assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste, on s'en souvient, des peines de prison de 18 mois avec sursis notamment à 6 mois ferme, mais avec des peine aménageable en tout cas pour ces jeunes qui pour la plupart sont des adolescents. Donc 18 mois de sursis, beaucoup de sursis et des peines aménageables. Voilà pour la sanction de la justice. Geoffroy Lejeune, par rapport à la mort de Samuel Paty, l'implication qui était assez indirecte entre la dénonciation, la jeune fille qui a fait le guet aussi dans le crime contre Samuel Paty.
En fait, à l'époque, on a dit plus rien ne doit être comme avant. Tout est comme avant. Pardonnez-moi, mais c'est l'équivalent d'un excès de vitesse avec alcool et cocaïne, ce genre de peine. Or, c'était un traumatisme gigantesque pour toute la population française. J'incrimine le code pénal uniquement, mais en fait, c'est sidérant.
Ce n'est pas assez sévère.
Je refais pas le film, mais on a une décapitation à la sortie de l'école d'un professeur qui a été tué parce qu'il a montré des caricatures dans un pays où ça reste toléré, pardonnez-moi. Et à la fin, y en a qui prennent du sursis alors qu'ils ont eu un rôle dans l'histoire. Et encore une fois, quand c'est arrivé, on a dit plus jamais ça. Ça a recommencé depuis avec Dominique Bernard. Et par ailleurs, les peines, vous pensez mettre un coup d'arrêt à quoi avec ça?
Et 16% donc qui ne condamnent pas parmi les musulmans l'acte terroriste contre le professeur Bernard. Vous vouliez réagir pour terminer?
Oui, non, je suis assez d'accord avec Geoffroy
effectivement cette sanction.
Sur le fait que symboliquement, on avait besoin qu'il y ait quelques mois de prison, de ferme. Je veux dire qu'il n'y a que du sursis pour des gens qui ont participé à cette horreur. Ça me choque.
Ces adolescents ont été en prison, donc il y a une partie du ferme. Après, il y a du ferme qui sera aménageable, mais en effet, une grande majorité de sursis, en effet.
D'accord. Oui. Mais l'affaire Paty, ça rejoint la discussion qu'on avait auparavant. Qu'est-ce que c'est que le pas de vague? C'est de renoncer à l'esprit laïque. C'est exactement ça. C'est de renoncer. De quoi est mort Samuel Paty? D'avoir enseigné la liberté d'expression, ce que signifiait
la
liberté d'expression dans un pays, dans une république laïque, où le blasphème est autorisé. Non pas qu'il est encouragé, mais qu'il est possible. Et donc il est mort de ça, Samuel Paty. Et donc le fait que, par rapport à cet enseignement, à ce professeur, que l'éducation nationale n'ait pas toujours fait preuve d'assez de solidarité à son égard, pas au niveau de son collège d'ailleurs, mais au niveau du rectorat, ça fait partie de la question laïque.
C'est terminé pour cette dispute ce soir, car dans quelques instants, nous allons retrouver la grande interview d'Agnès Pannier-Runacher, mais c'était très intéressant et on se retrouve vendredi prochain, comme chaque vendredi à 21h, en effet, avec grand plaisir, avec Geoffroy Lejeune, avec Philippe Guibert. À 22h, ce sera aussi Olivier de Clairenfleck pour Soir Info, mais dans un instant, juste après la pause, restez avec nous sur CNews, l'interview donc d'Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la ministre de la transition énergétique. On va parler des prix de l'électricité, des prix du gaz, de la COP. Évidemment, la COP 28, vous rendez à Dubaï aujourd'hui, vous y retournez. Mais tout d'abord, je voulais vous entendre sur quelques sujets d'actualité, notamment sur ce qui s'est passé hier soir à l'Élysée. Une cérémonie religieuse, l'allumage de la première bougie de Hanouka par le rabbin Haïm Korsia. Et ce, alors qu'Emmanuel Macron avait décidé de ne pas participer à la grande marche contre l'antisémitisme. Comment est-ce que vous jugez cette atteinte à la laïcité qui s'est produite hier soir à l'Élysée? Il y a eu énormément de commentaires de tous bords d'ailleurs, droite comme gauche.
Alors moi je vais remettre les points sur les i. C'était une remise de prix, justement pour saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de l'abaya à l'école, ou qui encore ces dernières semaines ont annulé, interdit des associations qui portent des valeurs qui portent atteinte à la laïcité. Et vous savez, au même moment, je remettais le prix national de la laïcité à la fille de Jean Zay. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est une polémique qui est décalée avec la réalité des faits. Et il est très clair que nous continuerons à faire de la laïcité un grand combat pour le gouvernement.
Il n'y a peut-être pas d'ambiguïté sur la laïcité. Il y a peut-être eu à un moment une ambiguïté sur l'antisémitisme. Est-ce que la faute originelle d'Emmanuel Macron, ce n'était pas de refuser de participer à la marche contre l'antisémitisme?
Il avait dit au nom de l'unité du pays. En quoi ça mettait en danger l'unité du pays?
Oui, en l'occurrence, on est là aussi sur une polémique un peu stérile. Moi, j'étais à cette marche. La plupart des ministres y étaient. La première ministre y était.
Le président de la République n'y était pas.
Et en première ligne. Et lui-même avait dit tout son soutien à la communauté juive et son horreur de ce qui avait été perpétré le.
Mais en quoi ça aurait divisé le pays de marcher contre l'antisémitisme?
Je crois qu'on essaye de monter en épingle des choses alors que la position du gouvernement et du président de la République, elle est très claire. Nous soutenons la laïcité. Nous luttons contre toutes les formes d'intolérance, contre toutes les communautés de notre pays, quelle que soit leur religion, qu'il s'agisse des musulmans, des juifs, des catholiques ou des personnes qui ne croient pas.
Là, il
n'était
pas question de toutes les communautés. Il était question d'une communauté qui était particulièrement attaquée, la communauté juive.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que nous nous sommes mobilisés avec le gouvernement, avec la Première ministre. Moi, j'étais à Lille. La Première ministre était à Paris. Olivier Véran était à Grenoble. Olivier Becht était à Strasbourg.
Le gouvernement
nous
était mobilisé.
Nous étions
pas le président de la République.
Sur tous les fronts. Nous étions sur tous les fronts. Et je rappelle qu'il est assez rare que le président de la République, pour des raisons aussi de sécurité, prenne part à ce type de manifestation. Le seul exemple récent, c'était effectivement la manifestation où nous étions 2 millions de Français au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo. Et effectivement, c'était un cas particulier puisque 40 dirigeants du monde entier étaient venus et la présence du président de la République était nécessaire
c'est
à ce moment-là.
C'est pour des raisons de sécurité qu'il n'est pas allé manifester ?
Je vous le redis. On monte en épingle de vaines polémiques là où la position du président de la République est une des plus claires au niveau européen sur sa position contre la lutte contre l'antisémitisme, mais également sur le fait qu'il n'y a aucune raison de stigmatiser aucune communauté. Et je trouve très désagréable de voir des oppositions politiques qui se jettent comme la misère sur le bac clergé breton pour essayer de pointer une ambiguïté alors que nous devons faire nation, nous devons être unis et nous devons montrer que rien ne passera et surtout pas des attaques à la laïcité.
La grande interview d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique sur CNews et Europe 1. Le projet de loi immigration, il arrive lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il risque de faire pchit dès lundi puisque si toutes les oppositions venaient à voter contre, la motion de rejet déposée par les écologistes pourrait passer dès lundi. Plus de projet de loi. Immigration, le texte serait rejeté. Ça serait un naufrage.
Mais attendez, vous allez me dire que les Républicains, le Rassemblement national qui demande cette loi, voterait contre le fait de l'examiner en hémicycle. Enfin, moi, je ne crois pas une minute que les Républicains seraient suffisamment, ne seraient pas responsables dans le fait d'examiner cette loi. Parce que c'est de ça qu'il est question. Cette loi, elle répond à la demande de fermeté des Français, mais également d'un certain nombre de partis politiques, pour faire en sorte de lutter contre l'immigration illégale. Elle va permettre de corriger certains effets de la loi de 2003 qui nous empêche d'expulser des étrangers délinquants de notre territoire, 4000 délinquants étrangers que nous pourrions expulser plus rapidement, parce qu'il y a des freins juridiques à leur expulsion, alors même que d'autres le sont et qui présentent le même caractère de dangerosité. C'est de ça qu'il est question dans cette loi. C'est une loi qui va permettre de transformer en crime les actions des passeurs. Je ne crois pas qu'une minute que des gens
Éric
responsables...
C'est une petite loi qu'elle ne va pas résoudre grand-chose. La situation
et donc
n'est plus tenable.
Et donc Éric Ciotti refuserait de l'examiner au Parlement ? Ne voudrait pas la discuter ? Ne voudrait pas y apporter des améliorations ?
Ça serait responsable de la part des LR ?
Je pense que ça ne correspond pas à tout le discours politique qu'il porte ces derniers mois en disant qu'il y a besoin d'une loi, qu'il y a besoin de renforcer les moyens de la police, ce que nous faisons avec cette loi pour permettre d'agir plus fortement contre l'immigration clandestine. Et je ne crois pas une minute qu'il serait responsable de la part de députés de mettre en danger notre pays par rapport à des gens qui pourraient commettre des actes et qu'on aurait pu expulser et qu'on ne pourrait pas expulser à cause de cette loi.
Je disais, la situation n'est plus tenable en matière d'immigration. C'est ce que disait fin août le président de la République Emmanuel Macron. Et c'est un texte qui va résoudre cette situation intenable.
Je pense que la loi que porte Gérald Darmanin, elle permet effectivement de donner des outils à la police, à la gendarmerie, à la justice pour faire en sorte de lutter plus fortement contre l'immigration clandestine et pour faire en sorte qu'on renforce l'autorité dans notre pays.
Madame la ministre de la Transition énergétique, on va parler électricité, énergie. On est au début de l'hiver, Noël approche, il devrait faire froid. Est-ce que, à ce jour, vous écartez totalement le risque de blackout? On en parlait beaucoup l'année dernière. Est-ce que cet hiver, il n'y aura aucun problème?
Alors, je vais vous dire, il n'y a jamais eu de risque de blackout dans notre pays, puisque le blackout consiste à avoir un effondrement généralisé de notre système d'électricité. Le risque qui pesait l'année dernière, c'était un risque de délestage organisé. Et je vous confirme aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque de délestage parce que nous avons travaillé, parce que EDF a travaillé à reconnecter ses réacteurs nucléaires sur le réseau, parce que collectivement, nous avons baissé notre consommation d'énergie. Et je rappelle que cette baisse de consommation d'énergie, elle est durable. Ça fait 12 mois que nous y travaillons avec les grandes entreprises, les grandes collectivités locales et les administrations. Mais les Français ont également joué le jeu et elle a baissé la consommation d'électricité, de gaz de 12%. Et tous ces éléments nous permettent aujourd'hui d'être très sereins par rapport à l'hiver qui arrive.
C'est la consommation des particuliers ou la consommation des industriels? Ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de l'activité industrielle?
Vous l'avez constaté. Nous avons baissé notre consommation de gaz et d'électricité de 12%. La croissance n'a pas baissé de 12%. La croissance était toujours au rendez-vous. Donc c'est en fait la lutte contre le gaspillage énergétique. C'est le fait de bien utiliser l'électricité, bien utiliser le gaz, qui est essentiellement la raison de cette baisse de consommation. Et nous l'avons... J'ai lancé un plan sobriété il y a un peu plus d'un an, avec 300 fédérations, un plan secteur par secteur. Et aujourd'hui, il porte ses fruits.
Sur le prix de l'électricité, Agnès Pannier-Runacher, à quoi faut-il s'attendre l'année prochaine?
Alors, vous le savez, l'année prochaine, nous avons toujours un bouclier électricité pour les très petites entreprises et pour les ménages. Je rappelle que cette année, nous prenons encore en charge 37% de la facture des Français. Cet écart, c'est 37%, c'est l'écart entre les prix sur les marchés financiers de l'électricité et le prix que payent les Français sur leur facture. L'année prochaine, les prix sur les marchés financiers sont en train de baisser et donc nous maintiendrons le bouclier énergétique jusqu'à ce que le prix de l'électricité redevienne raisonnable et c'est pour ça que nous serons en capacité de l'enlever probablement au milieu de l'année.
Le Français qui paye 100 euros en 2023 paiera combien en 2024? La Commission de régulation de l'énergie a parlé peut-être un petit peu vite, mais de 10 à 20% d'augmentation. C'était fait taper sur les doigts par Bruno Le Maire, qui avait dit oulala, pas plus de 10.
Vous annoncez combien? Oui, on dit toujours pas plus de 10. Pourquoi? Parce que c'est nous
sur
qui avons...
Sur toute l'année.
Pas plus de 10. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la possibilité, avec le bouclier électricité, de faire en sorte que c'est... pas plus de 10. Oui. Donc pas plus de 10%, je vous le dis.
Sur 2024.
C'est l'enjeu du bouclier d'électricité.
Sur tout 2024?
Alors, a priori, je le redis, il y a deux moments d'augmentation de l'électricité. Il y a le mois de février où c'est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité et le mois d'août où vous avez la prise en compte de l'évolution du tarif de votre réseau. Le tarif de votre réseau, ça n'a rien à voir avec les marchés financiers. C'est le fait tout simplement d'investir dans les réseaux d'électricité. Et donc ce prix, il évolue de quelques euros par an du mégawatt. Ça n'a rien à voir avec les prix de l'électricité qu'on a connus l'année dernière.
Agnès Pannier-Runacher, vous redécollez pour Dubaï tout à l'heure, pour aller à la COP28, bien sûr. Tiens, vous y allez en avion, évidemment. Bon, vous seriez favorable à un nombre limité de vols en avion dans une vie?
Alors, je pense que ce sujet-là, il ne faut pas l'aborder comme ça. Parce que là, on aborde...
Certains l'abordent comme ça.
Oui, je sais, et je le regrette. Parce que moi, je suis la ministre qui a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 2,7% l'année dernière et de 4,3% depuis le début de l'année. Aucun ministre et aucun gouvernement et aucun président n'avait fait autant ces dernières années. Et nous l'avons fait sans imposer de contraintes, de sanctions, de lois, parce que nous comptons sur la responsabilité des Français et sur le fait que chaque secteur d'activité doit se repenser au regard du dérèglement climatique.
Donc si je vous suis, vous êtes contre?
Et oui, parce que c'est une espèce de mesure un peu démagogique, mais qui ne répond pas au sujet central. Le sujet central, c'est comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie. Et pour cela, il faut investir, il faut des soutiens publics, il faut également permettre aux Français d'avoir accès à l'écologie, à des solutions écologiques qui soient à portée de leur portefeuille. Et c'est ce que nous faisons. Nous imposons aux grands acteurs d'agir. Et pour les ménages, nous mettons à la portée de leur portefeuille le véhicule électrique, par exemple, avec des aides importantes, le leasing à 100 euros l'année prochaine également, ou de la rénovation thermique dont on prend en charge pour les plus modestes jusqu'à 90%. Ça, c'est agir pour les Français et c'est faire en sorte aussi que cette transition énergétique, elle crée de l'emploi en France, elle crée des sites industriels en France.
Vous retournez à la COP donc pour vous concentrer, j'allais dire, sur l'essentiel, la sortie des énergies fossiles et la baisse des émissions. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Alors moi je serai chargée par la Commission européenne de porter une partie des négociations, notamment sur le volet financement, et puis je porterai plus largement les positions de la France. Les positions de la France, elles sont connues. Oui, nous devons sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Et la première chose à faire, parce que c'est celle qui a le plus d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la sortie du charbon. Le charbon est une énergie qui génère énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, bien sûr que c'est au niveau mondial. Nous allons le faire en France, nous allons donner l'exemple. Mais le charbon, chez nous, c'est moins d'1% de notre mix énergétique. Ouais. Simplement, on montre que c'est possible. Et surtout, nous devons donner les moyens.
Les Chinois vont nous écouter ?
Les Chinois sont le pays qui développe le plus rapidement possible, le plus rapidement au monde, les énergies renouvelables. Mais effectivement, ils continuent à développer des énergies au charbon. Et ce que nous leur disons, c'est... plutôt que de développer du charbon, passons à d'autres énergies directement. Vous en avez la moyenne, vous en avez l'ingénierie. Donc, arrêtons le charbon et continuons avec d'autres énergies qui émettent moins de gaz à effet de serre. C'est plus facile à dire qu'à faire.
Comme le nucléaire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux dire qu'à l'initiative de la France, où j'étais à la COP28 également la semaine dernière, à l'initiative de la France, pour la première fois en 28 ans, nous avons remis le nucléaire à l'agenda. Il y a eu des événements autour du nucléaire et nous annonçons dans une coalition le triplement de la production nucléaire d'ici 2050.
C'est l'avenir ?
Le nucléaire, c'est l'avenir, mais tout comme les énergies renouvelables, on ne peut pas faire la lutte contre le dérèglement climatique sans l'un et sans l'autre. Et comme la maîtrise de notre énergie, le fait de lutter contre le gaspillage, c'est également un élément essentiel. Aujourd'hui, c'est une course contre la montre. Et cette course contre la montre, elle suppose d'utiliser tous les leviers à notre disposition. Baisse de la consommation d'énergie, déploiement de plus de nucléaire, déploiement de plus d'énergie renouvelable.
Madame la ministre de la Transition énergétique, vous roulez à combien sur le périphérique parisien ?
Alors, je roule au rythme des embouteillages. Et vous savez comme moi qu'il est rare...
Il est rare. Vous voyez où je veux en venir.
Mais oui, tout à fait. Il est rare de rouler au rythme de la limitation de vitesse. Et c'est là où
si
je pense que...
Si vous roulez la nuit sur le périphérique parisien, vous roulez à combien ?
Je roule à la limitation de vitesse. Alors, oui. Sur la nuit où il n'y a pas d'embouteillage.
La mairie de Paris veut baisser la vitesse de 70 à 50 km/h. On se traîne, c'est quasiment une autoroute. Vous y êtes favorable ou pas à cette mesure ?
Moi, je dis deux choses. La première chose, c'est qu'on ne prend pas une mesure quand on est parisien. On ne prend pas une mesure quand on est maire de Paris sans prendre en compte tous les usagers du périphérique qui sont, comme par hasard, des gens qui vivent en banlieue, qui n'ont pas les mêmes moyens que les Parisiens, qui n'ont pas les mêmes transports en commun. Je trouve ça antisocial. Je trouve ça illégitime. La deuxième chose, c'est que mettre la vitesse à 50 km/h, si c'est pour générer plus de bouchons, c'est surréaliste parce que ça génère plus d'émissions de CO2. Donc c'est vraiment de l'écologie à la petite semaine. Aujourd'hui, l'enjeu de Paris, c'est de bien circuler, c'est de créer les moyens de transport en commun qui permettent justement de se passer de la voiture, c'est de faire en sorte que les gens qui ne vivent pas à Paris, qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris, puissent avoir accès facilement à Paris, puissent éventuellement prendre leur voiture jusqu'à des grands parkings et ensuite passer sur des transports en commun, qui soient fiables, qui soient sécures, qui soient réguliers. C'est ça la vraie politique. Et aujourd'hui, je n'en vois pas le bout.
Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'être venue ce matin sur CNews et sur Europe 1.
Merci
et donc
beaucoup.
Bonne COP, vous y retournez, COP28. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui.
Merci.
Bonne journée.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.